Accueille l'évangile de Matthieu et le chapitre 7, s'il vous plaît. Nous avons étudié pendant des mois un sermon, un discours que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé en quelques minutes. Donc, vous devez vous le rappeler. Parce que il y a des choses que vous avez oubliées, que les gens n'ont pas oubliées, parce que Jésus vient de le dire. Et donc, quand nous arrivons à notre passage, il y a un fil de pensée qui reste dans la tête des interlocuteurs, des auditeurs de Jésus, et à la fin de toute cette partie qui commence dans le chapitre 7, vous rappelez, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et après cela, Jésus montre quelle est cette justice que Dieu nous demande de nous dans les lois et les prophètes, et que Jésus lui-même va maintenant expliquer plus clairement que jamais. Et avec cela en tête, nous allons écouter la fin, en quelque sorte, du sermon, parce que après cela, Jésus va maintenant se tourner vers ses auditeurs et les appeler au salut. Mais l'enseignement est, pour ainsi dire, fini. D'accord? Donc, nous lisons dans le chapitre 7 et le verset 7, après toutes ces exigences que le Seigneur nous donne, cette vie à laquelle il nous appelle, il dit dans le verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. L'on, c'est-à-dire Dieu, vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? » Et on devrait mettre le verset suivant avec ceci. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Vous vous rappelez? Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Donc, nous voyons que les deux serre-livres sont là. Jésus est en train de marquer le fait que je viens de finir tout cet enseignement au sujet de la vie du croyant, la vie que vous devez mener, et qu'il résume, en disant tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. C'est le résumé du chapitre 5, 6 et le début du 7. D'accord? Le secret des progrès spirituels. Tirez, demandez. C'est ça le titre de notre méditation de ce matin. Donc, vous pouvez comprendre, mettez-vous à leur place. Vous avez entendu ce chapitre 5 que moi je vous dis le Seigneur, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez commis un adultère déjà. Ou si vous vous fâchez avec votre prochain, vous avez déjà commis un meurtre. Ou bien, bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous outragent. Ou bien, Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, fermez la porte, priez le Père qui est en secret, priez de cette manière. Ne vous inquiétez de rien. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez pas, afin de ne pas être condamnés. Et après toutes ces exigences, l'auditoire et nous avons une seule et grande question. Quelle est la vôtre? La mienne, c'est comment le faire? Comment y arriver? Et donc, en terminant son instruction, le Seigneur nous donne la réponse. Mais il y a des réponses possibles qui sont fausses. Comment y arriver? Première possibilité de réponse, essayez plus fort. Essayez plus fort. Dans certaines religions ou dans certaines philosophies de vie, la manière d'y arriver se résume un peu comme ça. C'est la volonté humaine. N'est-ce pas? Trouvez en vous, dit les films de Walt Disney. Trouvez en vous, c'est en vous. Alors, faites-le sortir. Essayez plus fort. Deuxième réponse possible. Comment y arriver? On n'arrive pas, ce n'est pas réaliste. Ce n'est même pas la peine d'essayer sérieusement d'y arriver de plus en plus. Donc, contentez-vous, complaisez-vous dans le stade où vous êtes maintenant en vous disant, c'est tout ce que je vais arriver à faire. Et beaucoup de gens donnent cette réponse à cette exigence. Mais le Seigneur donne une toute autre réponse. En terminant toutes ces demandes, ces commandements, cette loi, avec cette parole inattendue. Et je vous dis, inattendue jusqu'au point où beaucoup de commentateurs n'arrivent pas à trouver pourquoi cette partie est là. Ça semble être parachuté dans un discours qui a un fil de pensée très logique et puis subitement demandez et vous recevrez. Mais c'est extrêmement logique parce qu'en terminant, il nous donne la clé pour y arriver. Donc, nous allons, en parlant maintenant de ce premier point, quelle est la place de la prière dans la vie chrétienne, juste prendre nos repères un peu, si vous voulez. Dans ce passage devant vos yeux, le Seigneur Jésus parle de la prière. Vous l'avez vu. À la fin, il explique que si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus forte raison le Père céleste en donnera-t-il à ceux qui les lui demandent? Il parle de la prière. Et il parle de la prière pour des choses nécessaires. L'avez-vous remarqué? C'est pas pour demander la Mercedes qu'on peut appliquer la promesse demandez et vous recevrez. Parce que Jésus définit de quelle sorte de requête il s'agit en donnant une analogie. Vous l'avez vu? C'est un enfant qui demande quoi? C'est un enfant qui demande du pain ou du poisson. C'est-à-dire les deux aliments les pas de luxe, mais vraiment de base du peuple juif en Palestine à l'époque. N'est-ce pas? En tout cas, il a faim, il demande ce qu'il lui faut, le nécessaire. Et il faut aussi comprendre que, principalement, Jésus, dans ce passage, est en train de parler de la prière que nous adressons à Dieu pour des ressources spirituelles pour pouvoir obéir au sermon sur la montagne. Est-ce que je peux le prouver? Je pense. Jésus dit ici, à la fin de ce sermon, on vient d'entendre beaucoup de choses, mais il y a des mots qui reviennent. Et naturellement, on les lit, n'est-ce pas? Ici, nous entendons demander, chercher, frapper. Tout à l'heure, il venait de dire chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses, le vêtement, la nourriture, vous seront données par-dessus. Cherchez, demandez. Donc, le prioritaire, nous venons d'entendre, à chercher, c'est pas le vrai poisson, c'est pas le poisson, c'est une analogie, même si Jésus nous enseigne de demander. Même ici, dans ce passage, dans ce sermon, la nourriture et le vêtement. Ici, je crois qu'il est en train de parler principalement du fait que pour obéir, pour vivre dans le royaume de Dieu, pour vivre la vie chrétienne, alors la clé c'est demander. L'analogie. Pain, poisson. Un enfant qui a faim. Comment a-t-il commencé le sermon? Il a dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice. Comment être juste envers Dieu, aimant, croyant, pur, jusqu'au mobile, n'est-ce pas? Oui, je pense que Jésus a dans son esprit la manière d'y arriver. Mais je crois que je peux mettre un clou final dans cette preuve en vous faisant remarquer que nous avons lu tout à l'heure le passage parallèle en Luc, où Jésus reprend dans un autre endroit, à un autre moment, la même analogie, mais avec une légère différence, parce que comme tout prédicateur qui prêche dans les lieux différents le même sermon, parfois, il introduit des petits changements juste pour voir la même chose d'un autre angle. L'avez-vous remarqué la différence? En Matthieu 6, à la fin de l'analogie, il dit « À combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux donnera-t-il quoi ?» De bonnes choses à ceux qui lui demandent. Mais quelle bonne chose! Moi, je suis en train de vous dire principalement la transformation spirituelle et toutes les ressources, sagesse et puissance spirituelle pour dire non au péché, l'amour, de plus en plus d'amour pour aimer, etc. Et je vous le prouve en vous faisant remarquer tout simplement que dans la version de Luc, où il prêche ailleurs la même chose, ça finit comme ceci. Il dit ici donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, non pas de bonnes choses, mais donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est-à-dire, il va nous donner l'Esprit Saint avec toute la puissance, et le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la fidélité, etc. N'est-ce pas? Voilà. Donc Jésus interprète lui-même ailleurs ce qu'il veut dire par de bonnes choses. Ça n'exclut pas les choses matérielles, ok? Mais je crois que c'est secondaire dans la pensée du Seigneur en ce moment. Donc, nous avons pris nos repères. Mais nous voulons dire que la place de la prière, de la demande dans la vie chrétienne, c'est simplement ceci. C'est que pour vivre la vie chrétienne, nous devons vivre à partir de la largesse de Dieu le Père. D'accord? La solution à la question comment y arriver, c'est demander. D'accord? Demandez, cherchez, frappez. Et alors que vous êtes une personne qui demande, qui frappe, qui cherche, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne, il fait découvrir ce que vous cherchez, et il ouvre. Il ouvre la voie vers quelque chose à laquelle vous n'aviez pas encore accès. Okay? Donc vous voyez que nous avons ici une largesse de Dieu qui est donnée constamment aux chrétiens qui prient. Et donc c'est cela, la manière d'arriver à quelque chose à laquelle j'étais exclu. Mais maintenant, on m'ouvre. C'est le moyen d'avoir quelque chose que je n'ai pas, mais maintenant, je le reçois. C'est la manière de découvrir quelque chose qui était en quelque sorte perdu, et je cherche et je trouve. Dieu me fait trouver, Dieu me fait entrer, Dieu me fait recevoir à partir de sa largesse du Père. Ok? Est-ce que vous voyez la vie chrétienne, le secret de la vie chrétienne comme cela? Je vis à partir et selon la largesse d'un Père céleste qui a pour caractère d'être un grand, grand donateur. C'est très étonnant pour nous de savoir que c'est cette vie-là qui est la vie chrétienne et nous allons voir que ça devient encore meilleur à la fin. Ok, la fin du sermon. Ok, deuxième point. Nous avons parlé de la place de la prière, c'est vraiment la solution au problème, comment y arriver. Et deuxièmement, la nécessité de la prière. Regardez le verset 7. Nous avons ici, si vous sentez le ton des propos du Seigneur, il veut nous montrer que c'est absolument nécessaire que vous priez, que vous demandez beaucoup, en fait tout le temps. Comment est-ce qu'il nous montre que c'est absolument nécessaire? D'abord, le verset 7, un triple commandement. Verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Trois fois, pour être insistant. C'est un commandement, ce n'est pas facultatif. Il n'y a pas de chrétien qui prie, qui demande souvent, et de chrétien qui ne prie pas. D'accord? Nous sommes des gens que le Seigneur est en train de former d'une certaine manière, et cette manière, c'est d'être ceux qui obéissent au commandement triple. Demander, chercher, frapper. Et plus vous devenez mûr en tant que chrétien, plus vous demandez, cherchez et frappez. Mais Jésus montre aussi que c'est absolument nécessaire pour vous en vous donnant une promesse. Triple promesse conditionnelle. Un triple commandement, mais une triple promesse, mais qui est pourtant conditionnée sur le fait que vous devez demander. Regardez le verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. C'est pas tout le monde qui reçoit. C'est pas tout le monde qui trouve. Et ce n'est pas à tout le monde que Dieu ouvre. C'est celui qui demande. C'est celle qui cherche. C'est celui qui frappe. Et donc, nous voyons que la condition rend nécessaire que vous soyez des personnes qui demandaient, qui cherchaient, qui frappaient auprès de Dieu dans la prière. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui se passe aux chrétiens qui faillissent? Je sais que vous n'allez pas faillir complètement si vous êtes un vrai chrétien. Mais si vous êtes faible dans cette vie de demander, chercher, frapper, qu'est-ce qui arrive? Alors, Jacques 4.2 nous donne la réponse quand Jacques dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Je voudrais écrire ça sur le mur de chaque chambre où chaque chrétien dans le monde prie et d'abord dans ma chambre. « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » il y a des bénédictions que vous auriez pu avoir. Des bénédictions spirituelles pour surmonter certaines tentations, pour faire certains biens que vous n'avez pas eu. Ces ressources spirituelles, ces vertus bien mûries. Et la raison, dit Jacques, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est effrayant. Certaines bénédictions sont absentes de ma vie et certaines, la générosité de Dieu n'est pas évidente dans ma vie. Il est plus généreux que ce qu'on peut voir en regardant ce qu'il me donne. Et ça veut dire que je déshonore Dieu quand je ne lui demande pas assez. C'est terrible ça. Calvin a dit ceci, excusez-moi de citer, « Ne pas invoquer Dieu alors que nous savons qu'il est le Seigneur, que tout bien vient de lui et qu'il nous invite à lui demander ce qu'il nous faut. C'est comme si, ayant appris qu'un trésor est enfoui dans une terre, nous le laissons là par indifférence sans prendre la peine de le déterrer. Je suis comme ça parfois. C'est terrible. Est-ce que vous croyez que la prière, la demande, la recherche, le fait de frapper est nécessaire pour vous et que c'est par ce moyen que vous allez apprendre qui est le père de largesse? C'est par ce moyen que vous allez de plus en plus entrer dans la vraie position d'un enfant bien-aimé. Maintenant, la nature de la prière. Nous avons parlé de la place, c'est la solution à la question comment y arriver. Nous avons parlé de la nécessité, un triple commandement, une triple promesse. Et maintenant, la nature de la prière. D'abord, nous demandons avec une riche diversité dans notre approche. Regardez la diversité dans le verset 7. En décrivant le fait de prier Dieu. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Vous savez que ces trois actions ne sont qu'une action. Demandez, chercher, frapper sont trois manières de décrire le fait de demander quelque chose de Dieu. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que à la fin, dans l'analogie, nous voyons que les versets 9, 10 et 11 illustrent une seule leçon, comment demander. Regardez bien. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande? Ça, c'est l'illustration du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si... Donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? D'accord? Il parle de demander, chercher et frapper. Et puis, il illustre les trois en parlant uniquement de demander. Parce que chercher auprès de Dieu quelque chose ou frapper, c'est un moyen de parler de la diversité de demander. Par exemple, il y a des choses que vous comprenez bien, vous avez besoin de ça. Vous savez, vous avez besoin de plus de sagesse pour comprendre qui est Dieu et quelle est sa volonté. Donc ça, vous demandez tout simplement, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que vous cherchez, parce que ce sont des choses que vous ne savez même pas exactement ce que c'est. Et donc, vous devez chercher quelque chose qui est comme perdu pour vous. Et dans la prière, « Ô Seigneur, montre-moi, fais-moi découvrir, je cherche. » Mais il y a des choses qui vous avez demandées, vous avez cherché et... Je dirais aussi que chercher un peu, il y a peut-être une augmentation d'intensité entre demander, chercher, frapper. Vous voyez? Vous voyez que chercher peut être un peu plus intense que demander. Par exemple, chercher, c'est ce que ma fille ne fait pas lorsque elle demande où se trouvent ses chaussettes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller dans le tiroir, pour il y a une certaine chaussette qu'elle veut, et puis elle va regarder en haut, ce qui est sur la surface. Elle va peut-être juste mettre la main dedans et bouger un peu les choses. Mais chercher, c'est ce que ma femme fait lorsque ma fille n'a pas trouvé les chaussettes. Ma femme va aller fouiller. Elle va aller renverser le tiroir. Elle va tout enlever, elle va dire là, en bas. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est une augmentation d'intensité. Demandez, cherchez. Cherchez. Trouve pas. Cherche! Et puis frapper. Parfois, il y a des choses dans ma vie et ta vie, des bénédictions spirituelles, et il me semble que c'est un endroit à lequel je suis exclu. N'est-ce pas? J'arrive pas à être là dans ma vie chrétienne. Avec cette intimité avec Dieu, avec pureté de mobile, avec cet amour envers les autres. Et j'essaie d'arriver là. Et c'est comme si, même en demandant et même en cherchant, cela m'est exclu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est exclu? On frappe. Laissez-moi entrer. Et donc, parfois, il y a une vraie opportunité dans nos demandes. Maintenant vous expliquer. Donc il y a cette diversité dans la prière, vous voyez. Donc je me suis devancé un peu, mais je voulais vous dire dans le point B, nous demandons avec persistance et opportunité. Nous avons parlé de la diversité et maintenant je veux poursuivre avec cette idée d'importunité. Il faut que vous sachiez que notre traduction n'est pas complètement exacte. Nous lisons en français, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais en réalité, dans le grec, ce sont des verbes qui sont dans un temps qui est appelé le présent continu. Et si on voulait les traduire exactement, on traduirait, c'est pas du bon français, mais on traduirait « Soyez toujours en train de demander et on vous donnera. Soyez toujours en train de chercher et vous trouverez. Frappez sans cesse et on vous ouvrira. » Donc, par ce temps de verbe, Jésus montre que ce n'est pas des désirs passagers qui peuvent amener le chrétien à mûrir. C'est fatal, les désirs passagers. Vous priez pendant deux semaines pour quelque chose. C'est vraiment un problème, n'est-ce pas? Jésus dit, soyez toujours en train de demander, chercher et frapper, et là, on vous ouvrira. Cette intensité croissante que j'ai invoquée tout à l'heure aussi appuie l'idée d'importunité, n'est-ce pas, de persistance. Et le fait que dans Luc, c'est joint à cette parabole que Pierre nous a lue, de cette personne qui à minuit a un visiteur qui arrive, et il doit par importunité, par persistance, faire sortir son voisin de son lit pour lui donner ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour nous montrer que nous devons aussi user d'importunité avec Dieu. Je voudrais donc vous dire que dans notre passage d'aujourd'hui, Jésus n'est pas en train d'enseigner que la prière, c'est la solution à la question « Comment vivre la vie chrétienne ?» Non. La prière n'est pas la solution. La prière persistante est la solution. Pourquoi est-ce que nous devons être persistants en demandant à un autre humain, avant de recevoir. Souvent parce que la personne ne veut pas donner, n'est-ce pas? Nous sommes obligés, comme dans la parabole. Mais Jésus nous montre dans l'analogie que ce n'est pas ça pour lui. Parce qu'il va nous dire que si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison Dieu est-il quelqu'un qui aime donner à ses enfants? Donc ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous donner ce qu'il faut, ce qu'il vous faut vraiment. Pourquoi devons-nous donc obéir à ce commandement de donner, demander, chercher et frapper avec persistance? Je veux vous donner peut-être 3 ou 4 idées, mais c'est un peu mystérieux pour nous. Dieu ne nous explique pas tout. Mais je vais vous donner quelques idées. Parfois, c'est parce que Dieu a besoin de purifier et de modifier votre demande. Ah, que je suis content que Dieu n'a pas exaucé toutes mes prières. Oh là là, j'ai demandé des choses qui auraient été horribles pour moi. Mais écoutez ceci, Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Parfois, nous demandons et nous ne recevons pas parce que Dieu doit changer nos mobiles, nos intentions, notre disposition de cœur. Peut-être la chose est bonne en elle-même, mais je ne suis pas la bonne personne pour l'avoir. Cela entre mes mains sera abusé. Donc Dieu a entendu, mais pour me donner la chose, il faut changer la personne. Deuxièmement, parfois Dieu, en attendant, en nous faisant attendre avant de nous donner, il est en train de nous pousser à chercher son royaume avec plus de détermination. Ok, de la persistance traduit le fait que j'apprends que j'ai vraiment besoin de cela. Pour nous éviter cette fatalité des désirs passagers. Ok. Troisièmement, parfois vous avez l'impression que Dieu n'est pas encore en train de répondre à vos prières. Il est en train de l'exaucer en ce moment même, sauf que vous ne le savez pas. Il est en train de faire quelque chose d'essentiel à l'exaucement, mais cette chose est invisible à vos yeux. Ça va pointer, mais vous ne le voyez pas encore. Daniel, chapitre 10, il me dit, l'ange vient à Daniel qui prie et jeûne depuis 3 semaines pour comprendre quelque chose de capital. Et l'ange lui arrive après 3 semaines. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, il parle d'un esprit mauvais, d'un démon, qui, dans l'hiérarchie de Satan, s'occupe du royaume de la Perse, entre guillemets. Le chef du royaume de Perse m'a résisté, moi un ange, donc un mauvais ange, un ange déchu, un ange bon. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, 3 semaines, pendant que tu pries. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, archange, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il explique que quelque chose est arrivé dans le domaine invisible aux hommes, dans le monde spirituel, que tu ne voyais pas Daniel et tu pensais que Dieu n'entendait pas. Dès le premier jour, il m'avait déjà envoyé. Mais il y avait une lutte spirituelle. Quatrièmement, parfois Dieu est en train d'exaucer votre demande. Mais cet exaucement implique un processus qui exige votre participation. Pierre a dit ceci dans sa deuxième épître, sa divine puissance nous en aide tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous avez entendu? Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance et ainsi de suite. Vous voyez, il y a certaines choses que vous demandez. Si vous demandez plus de patience, la patience s'apprend par un processus et il vous faut des épreuves. Comment développer un muscle sans avoir à soulever un poids? Comment développer la patience sans avoir des choses qui éprouvent votre patience, qui vous rendent impatient? Et vous demandez la patience et Dieu vous envoie plus, pas la patience, mais plein de problèmes. Et j'ai demandé la patience. Il est en train de vous donner la patience par ses problèmes. Réjouissez-vous. Sauf que ça vous engage et ça prend du temps. Mais c'est important de le comprendre. Parce que parfois, on pense que Dieu n'est pas en train de répondre, alors qu'il est en train d'envoyer plein de choses qui font partie de la réponse à nos prières. La dernière chose, pourquoi est-ce qu'il faut persister avec Dieu pour être exaucé? Les bonnes choses viennent selon la montre de Dieu et pas selon notre montre. Et voilà l'importance de cela. Supposez que chaque fois que vous demandiez quelque chose, Dieu vous le donnait tout de suite. Que vous n'aviez jamais à attendre, à patienter ou à persister dans la foi. Quelle sorte de relation existerait entre toi et Dieu si dès que tu demandes, tu as? Dans cette relation, qui est le maître et qui est le serviteur? Qui se fait attendre et qui commande une action immédiate? Vous voyez, la relation entre Dieu et l'homme est complètement bouleversée. C'est pour cela que dans vos relations avec vos enfants, vous ne faites jamais comme ça. Si vous voulez gâter un enfant complètement, exaucez toutes ces demandes tout de suite. Et quelle sorte de relation existe maintenant? C'est vous qui êtes à ses petits soins, c'est vous qui êtes son serviteur, et il est le petit roi dans la maison, tout ce qu'il demande, il a dès qu'il veut. Nous pouvons plutôt louer Dieu de ce que Dieu est un Dieu qui se fait attendre. Parce qu'il est Dieu. Vous savez que lorsque je suis allé voir le maire de ce village, j'arrive à l'heure et vous savez ce qui se passe? J'attends. S'il venait chez moi pour une affaire officielle, il faudrait que dès qu'il arrive, je sois à ses côtés. Vous comprenez la différence? C'est lui le patron de cette ville. Ça veut dire qu'il peut se faire attendre. Et Dieu est Dieu. C'est sa sagesse qui donne, qui décide l'horloge, le temps, le moment, le comment. Et dans ma manière de prier, de manière prolongée et persistante, je suis en train de reconnaître que c'est toi et Dieu. Une partie de ta gloire, c'est le droit de faire attendre les autres. qui doivent se dire, Dieu fait les choses selon son agenda. Parce qu'à lui la sagesse, et pas à moi. Est-ce que vous avez cette confiance que, en persistant, il y a de bonnes raisons et il y a une relation correcte, humble, de créateur qui s'installe de plus en plus? Je termine avec la certitude de la prière, et là, c'est là que je voulais vraiment arriver toute cette matinée, mais c'est assez court. Jésus nous parle de la nécessité de la prière et de la nature de la prière, mais il nous parle de la certitude de l'exaucement à la prière chrétienne. Et remarquez que Jésus dit qu'il y a une absolue certitude que vous serez exaucé si vous priez de la manière dont je viens de vous décrire selon ce passage. Pour les choses nécessaires, de manière croyante et patiente, vous serez entendu et exaucé. Remarquez comment Jésus montre qu'il y a une certitude absolue. Premièrement, il y a une triple promesse d'exaucement, verset 5. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus est en train de dire par cette triple promesse d'exaucement sûr que le royaume de Dieu n'est pas comme le royaume des hommes. Nous avons un nouveau président. Nous ne sommes pas en train de danser dans la rue, peut-être parce que nous en avons eu d'autres qui nous ont fait des promesses d'exaucement. N'est-ce pas? Et il n'y a rien de plus incertain que la promesse d'un politicien. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et ce n'est pas d'Emmanuel Macron que je parle. Il va peut-être nous étonner dans le bon sens. Mais nous savons que dans les royaumes humains, nous vivons dans l'incertitude constamment vis-à-vis de nos rois, pour ainsi dire, et de l'exaucement qu'ils nous ont promis. Mais Jésus, en disant, on vous ouvrira, vous trouverez, vous recevrez, il est en train de dire que le royaume de Dieu n'est pas comme le royaume des hommes. Nous ne vivons pas dans une incertitude constante, est-ce que Dieu donne selon sa promesse ou pas? Est-ce qu'il garde ses promesses? Il est en train de dire, il n'y a rien de plus sûr et certain que dans ce royaume-là, Dieu est fidèle. Il est fidèle sur son selon son timing, mais il est fidèle. Deuxièmement, il y a une triple insistance que la promesse d'exaucement inclut tous les enfants de Dieu. Est-ce que vous aviez remarqué ça? Verset 8. Car quiconque demande. Vous voyez le verset 7, on dirait que c'est assez sûr. Maintenant, l'exaucement est sûr. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ça suffit pour montrer que c'est sûr. Non. Il doit ajouter. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Le Seigneur est très sage de nous parler ainsi parce que nous avons une très mauvaise habitude qui est très nuisible pour votre vie spirituelle. Ça, c'est cette habitude de croire que les promesses bibliques sont absolument vraies et certaines pour tout le monde, sauf moi. Ah oui, je crois que les paroles de Jésus sont vraies, qu'il y a des chrétiens qui vivent ça, qui reçoivent, qui trouvent, on les ouvre, mais moi je ne suis pas assez bon. Ça, c'est des promesses pour les autres, qui sont vraiment spirituelles. Et ainsi, on tue toutes les promesses de Dieu. On leur enlève tout leur poids, leur sens et leur puissance dans notre vie. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais nous le faisons tous. Et c'est pour ça que Jésus dit, quiconque demande, reçoit. Et à celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et à la fin du passage, que le Père donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et la dernière chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est la plus importante. Et c'est au sujet de cette certitude que vous allez pouvoir vivre selon la largesse de Dieu. Oui, vous-même. Votre vie chrétienne peut se passer comme ça. Et c'est simplement cette preuve que Jésus donne à la fin qui serait ridicule et impensable qu'un tel Père céleste n'exauce pas ses enfants, tous ses enfants. Regardez bien. Jésus dit, si donc vous qui êtes mauvais, en fait je crois qu'il vaut mieux traduire méchant, vous qui êtes méchant, vous savez donner de bonnes choses. Maintenant, remarquez d'abord que Jésus n'est pas en train je suis d'accord avec vous, il est en train de partir du Père humain qui sait donner de bonnes choses et dire le Père céleste est encore meilleur. Mais il n'est pas en train de vous dire pensez à vos pères. C'est extrêmement sage que Jésus ne procède pas comme ça. Parce que nos pères sont bien imparfaits. Jésus commence comment? Il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il est en train de prêcher un serment à ses disciples. Ce sont des croyants dont le cœur a été rendu changé. Il y a une bonté. Ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Et il dit, maintenant, vous savez très bien combien vous voulez donner tout ce qu'il faut à votre enfant. Jésus trouve un appui pour son analogie, n'est-ce pas? Et en tant que père, je peux le dire, je donnerai la lune, le monde, la lune, l'avenir, le passé, toutes choses à mes enfants s'il leur fallait ça et si je pouvais. Et donc, Jésus est en train de dire, mettez-vous dans cette situation. Votre enfant a faim. Oh papa, j'ai faim, on n'a pas mangé, il est l'heure du repas de midi est passé de loin. Est-ce que tu peux, voilà la boulangerie, est-ce que tu peux me donner juste un pain, du pain en attendant qu'on arrive, n'est-ce pas? Et il nous met dans une situation qui est en fait ridicule. Il dit, quel père entre vous, si son fils lui demande, pardon, je retrouve, oui, du pain lui donnerait une pierre. Vous passez à côté de cette boulangerie, vous voyez que votre enfant est un peu pâle. Il est un peu, oui, c'est vrai qu'il fait chaud, vous n'avez pas mangé, c'est déjà 1 heure et demie après son heure de manger habituelle, et il est petit, n'est-ce pas? Et il vous demande du pain, et vous ramassez un caillou, et vous dites, voilà pour toi. Est-ce qu'il y a un bon père qui penserait même à ça, qui ferait ça? Jésus nous met dans le ridicule pour nous montrer que pour le Père céleste, ne pas donner la chose qui est légitime et qui est demandée, c'est impensable. Vous me dites c'est impossible, mon histoire au sujet de l'enfant, à côté de la boulangerie. C'est impossible, c'est ridicule. Est-ce que vous pouvez penser à un enfant qui demandait du poisson dans la même situation et c'est encore pire, vous lui donnez un serpent. Rappelez-vous que dans l'Antiquité, il n'y a pas de serpent domestique, hein? Moi, j'en gardais quand j'étais jeune. C'était marrant pour moi et mon frère. Mais quand je suis allé en Afrique, j'ai compris parce que les Africains ont une peur bleue de tout serpent. Et il demande du poisson et vous cherchez et vous voilà pour toi. Plutôt que c'est ridicule, c'est impensable. Et Jésus veut dire, ça c'est pour vous. Et vous, aux yeux du ciel, aux yeux de Dieu, vous êtes mauvais. Vous êtes foncièrement mauvais. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être généreux. Vous le pensez peut-être, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous avez une petite part de bonté qui est maintenant en vous, mais je vous dis, du point de vue de Dieu, vous êtes vraiment mauvais. Vous ne savez rien, vous ne savez pas ce que c'est que donner. Et le Père aux cieux, qui n'épargne pas son Fils, comment est-ce qu'il ne nous donnera pas beaucoup plus facilement? Maintenant, la chose avec laquelle je veux vous laisser, c'est de vous faire remarquer que dans cette parabole de Jésus, Jésus nous met notre vie chrétienne dans la forme de l'évangile. C'est-à-dire, dans la forme, vous savez comment vous avez été sauvé? Parce que Dieu vous a donné exactement le contraire de ce que vous méritiez. Vous méritiez la condamnation. Vous ne cherchiez pas Dieu. Dieu vous a cherché, il vous a aimé malgré votre péché. Et il vous donne la gloire éternelle, la vie éternelle, le pardon, la réconciliation. Tout ce que vous ne méritez pas, vous méritez en fait le contraire. C'est exactement ici. Parce que remarquez, Jésus dit, vous qui êtes méchants, voilà les récipients qui demandent pendant toute leur vie chrétienne, qui cherchent et qui frappent. Et je vous dis que pendant toute votre vie chrétienne, pendant que vous cherchez, vous demandez et vous frappez, vous êtes quand même toujours, au jeu de Dieu, méchant. Jésus ne s'adresse pas aux bons. Si vous êtes bon, Dieu va vous exaucer. Il dit, vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père va vous donner à vous qui demandez ce qu'il vous faut. Et donc, ça nous montre tout simplement que la forme de la vie chrétienne, c'est la forme du salut originel. Et cette forme, c'est un Père rempli de grâce imméritée qui est en train de bénir constamment ceux qui n'auraient pas dû être bénis. Vous qui êtes méchants, le Père aux cieux qui sait vraiment donner, même aux méchants. Gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle ça, pour nous. Ça veut dire que la promesse est à moi. Cette promesse demandée est à vous. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera donné. Que Dieu nous aide vraiment à croire que cela nous appartient. Et que c'est une bonne partie de la solution à cette question, comment y arriver? Par la largesse d'un Père qui donne même aux méchants. Nous allons chanter. Le 205 qui nous parle du Dieu qui répond.